Paul la reine. Escargot d'Afrique. Si vous avez froid, si l'hiver vous paraît long et Paris monotone, faites comme j'ai fait l'autre soir, assistez à un dîner d'explorateurs. Là, dans quelques salons ornés de nattes aux couleurs vives, décorés bizarrement de panoplies sauvages et de costumes primitifs en plumes de perroquet, au milieu d'une conversation où s'entremêlent les longitudes et les latitudes, les gommes et la poudre d'or, les plumes d'autruche et l'ivoire, vous pourrez, tandis qu'au dehors la neige cristallisée brille, et tout en savourant un mocha qui vient de mocha, parfumé de tafia d'origine, vous procurer gratis et sans danger la sensation d'un grand voyage aux heureux pays du soleil. La belle flamme, et quelle verve, et les mirifiques aventures dans cette Afrique, mère des monstres, qui cache encore tant de secrets. Pour nous l'ouvrir, des héros sont morts. Cependant, les escargots du Marseillais cheminent lentement à travers les régions non visitées et, comme ces voyageurs d'un nouveau genre portent leur maison sur le dos et n'ont à s'embarrasser ni de bagages ni de tentes, tout donne lieu de croire qu'ils arriveront les premiers. Quels escargots ! Quels Marseillais ! C'est une histoire qu'au dessert mes explorateurs racontèrent et que je vais à mon tour vous raconter. Du temps que les escargots étaient inconnus dans l'Afrique australe, il y a bien 7 ans de cela comme chacun sait, un Marseillais vivait à la ville du Cap. Commerçant toute la semaine, il s'était fait bâtir pour y passer ses dimanches sur les flancs de la montagne de la Table, à l'endroit le plus sec et le plus rocheux, un petit cabanon horriblement blanc qui lui rappelait son cher Marseille. Là, une fois tous les 8 jours, grillé du soleil mais heureux, il se confectionnait un bel aïoli et le mangeait tout seul en regardant la mer. L'aïoli, mangé dans ces conditions, le consolait un peu de la patrie absente. Hélas, le cœur de l'homme est insatiable. Que signifie d'ailleurs un aïoli sans son accompagnement d'escargot ? Et le bon Marseillais, redevenu mélancolique, s'attendrissait obstinément au souvenir des escargots mangés sur place, après qu'on les avait dénichés, dans les éboulis des murs en pierre sèche qui soutiennent les jardins de Montpentu et du Roucas-Blanc. Un jour, le Marseillais n'y tint plus. Il écrivit à un compatriote resté là-bas, fait pour le comprendre, et 2 mois plus tard, par retour du courrier, arrivait à la douane de Cape Town, à une caisse carrée, percée de 1000 trous et répandant une odeur étrange. Cette caisse renfermait 10 000 escargots, de ces fins petits escargots gris qui, selon la prétention des Provençaux, sont aux escargots de Bourgogne, ce qu'est au lapin de Garenne, un maigre lièvre montagnard nourri de lavande et de thym. 4 000 escargots étaient malheureusement morts en route. Sur les 6 000 survivants, notre Marseillais en choisit 3 000 qu'il réserva pour être mangés, et plaça les autres dans un petit parc abondamment pourvu de légumes frais et de tout ce qui peut, en général, rendre aux escargots la vie douce. Le Marseillais avait son idée, et quand ces derniers lui parurent remis des fatigues de la traversée et suffisamment restaurés, chaque soir, il en prenait quelques-uns des plus gaillards, et, se perdant dans les 1000 sentiers, entourés de jardins et de villas qui serpentent autour de la montagne, il les déposait dans un trou de mur, ou sur la plate-bande d'un potager, à travers les barreaux d'une grille. « Nous avons ici un climat béni, se disait-il. Tous les légumes d'Europe y prospèrent. C'est bien le diable si mes escargots ne se multiplient pas. » En effet, les escargots multiplièrent, et dès lors, par les belles nuits australes, sous les reflets de diamants de la Croix du Sud, le remarseillais, un panier au bras, put faire mystérieusement d'abondantes et savoureuses récoltes. Pendant quelque temps, tout alla bien. Par malheur, les escargots, à qui le sol convenait, multipliant toujours, finirent par déborder les jardins, contournèrent stratégiquement les murs de la ville et, peu à peu, se trouvèrent occupés toute la riche et grasse presqu'île. Les aristocratiques cottages de Rosebank ombragés de chênes et les coteaux cuits du soleil où mûrit le vin de Constance. La chose ne se passa point cette fois sans attirer l'attention publique. Un beau jour, les bons vignerons hottentots, au service des propriétaires hollandais, arrivèrent tout effarés à la ville, racontant que des animaux étranges, sans pattes, quatre fois cornus, et tels que les anciens ne se rappelaient pas en avoir jamais vu les pareils dans le pays, dévastaient les vignes, hachaient les pampres et les grappes, et revenaient, plus affamés et plus nombreux, à mesure qu'on les détruisait. Le directeur du muséum, à qui un spécimen fut apporté, reconnut avec stupéfaction dans le monstre tous les caractères de l'Hélice cochlaria, du vulgaire escargot d'Europe. L'importateur ne soufflait mot, mais on apprit son nom par les registres de la douane. Grande émotion, fureur des journaux. Pendant quelques jours, la vie du Marseillais fut menacée. Cependant, tandis que la colonie ne parlait que d'eux et que les magazines publiaient leurs portraits avec des cordes intentionnellement exagérées, les escargots marchaient toujours. Un obstacle les arrêta à l'entrée de l'isthme. Les flats, vaste étendue de marécages et de sable, fleuris d'orchidées multicolores, de bruyères lilas et roses, domaine familier des serpents et des canards sauvages, mais que les escargots ne pouvaient traverser sans se noyer ou s'enliser. Patience et têtue, ils attendirent. Puis, un chemin de fer ayant été construit pour relier la ville avec l'intérieur, ils se glissèrent prudemment, silencieusement, le long des rails et envahirent les riches exploitations du coin français et les vignobles de la Perle. Les escargots iront plus loin encore, poussés au nord par un vague instinct, on dirait presque par un désir de se rapprocher de la patrie. Ils seront demain au champ de diamants. Les voies ferrées aidant, ils atteindront un jour le Zambèze. « Qui sait ?» dit en terminant le voyageur qui faisait ce récit. « Dans 20 ans, dans 30 ans peut-être, un Caillé ou un Livingstone, arrivant dans le dernier coin inexploré du continent africain, éprouvera la douloureuse surprise de voir qu'il a été précédé par les escargots partis du Cap. » Et le Marseillais ? Les habitants, pour toute vengeance, ont donné son nom, Laverpillière ou Casenavette, au gastéropode qu'il importa. Non maudit aujourd'hui par toute la colonie, mais qui sera béni demain, s'il est vrai, comme le Cape Times l'annonce, que la seule présence de l'escargot suffit à détruire le fléau des terres australes, plus terrible que notre phylloxéra, la punaise blanche d'Australie. Ce qui prouve qu'on peut devenir bienfaiteur de l'humanité sans le savoir et par pure gourmandise, et qu'il suffit parfois de laisser les choses aller pour que tout s'arrange et soit pour le mieux dans le meilleur des mondes.